Axel Vic, qui est directeur éditorial de Belle Balade Édition. Alors, Belle Balade Édition, c'est quoi concrètement? C'est une maison d'édition qui diffuse plein de livres.
Oui, donc Belle Balade, parce qu'on a notamment une collection de guides de balade qui a une application mobile associée. C'est ce qui en fait l'originalité principalement. Alors, c'est des guides de balade et pas rando, c'est-à-dire que l'idée, c'est de s'arrêter pour observer. C'est-à-dire la marche n'est qu'un moyen et non une fin. Vraiment marcher pour aller observer, apprendre un petit peu de choses sur la nature, la faune, la flore, le milieu naturel. Et surtout observer, quoi, finalement. Donc, c'est des guides qui sont rédigés par des naturalistes qui connaissent les milieux et qui vulgarisent leurs connaissances pour nous faire découvrir. Et l'application mobile, elle vous sert à plusieurs choses. D'abord, il y a tout le bouquin dedans, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de prendre le livre si vous voulez vous balader léger. Mais en même temps, vous avez des fonctionnalités qu'un livre ne peut pas apporter, c'est-à-dire le GPS. Bien pratique, surtout quand pour trouver le point de départ d'une balade déjà. C'est vrai qu'un guide classique, ben, si jamais, même si c'est bien fait, les indications, etc., pour trouver le point de départ, ben, si vous ne le trouvez pas, ben, vous ne pouvez pas du tout faire la balade. C'est tout bête. Alors que là, ben, voilà, le GPS vous amène directement au point de départ, donc c'est bien pratique. Et puis ensuite, pour ne pas se perdre en chemin, c'est bien, bien utile. Et puis ensuite, ben, toutes les fonctionnalités de l'application fonctionne sans réseau. C'est-à-dire que vous embarquez la balade complètement.
Ouais, c'est ce que j'allais vous
Donc, et
demander,
puis,
oui.
ouais, voilà, non, c'est embarqué. Et le GPS fonctionne sans réseau, hein. C'est pas le même système, GPS
D'accord.
et satellite. Donc, et les autres fonctionnalités qui sont bien utiles, c'est par exemple, vous pouvez écouter les chants des oiseaux dans l'appli et les reconnaître. C'est-à-dire que voilà, il y a
Oui.
des fiches oiseaux
Ah,
avec.
pardon, d'accord, j'ai compris.
Oui,
Non, parce que si j'écoute le chant des oiseaux, qu'il faut que je reconnaisse l'oiseau, là, c'est un peu raté, hein. Alors là, moi, je
non,
suis
c'est-à-dire que
tout le
l'application
monde
ne
est
reconnaît
disqualifié
pas
tout de
le
suite.
chant de l'oiseau
D'accord.
directement. Ça, on aimerait bien, mais ce n'est pas encore complètement au point, un jour peut-être. Mais par contre, vous avez tout un tas de fiches oiseaux avec une petite description dans l'application mobile et puis les chants que vous pouvez écouter, quoi. Donc vous pouvez quand même comparer avec ce que vous entendez en vrai. Et puis il y a aussi la possibilité de survoler la balade en 3D
Ouais.
avant d'y aller ou après pour voir un peu le relief, voir si c'est dur, si voilà à quoi ça ressemble. Et puis dernier truc marrant, c'est vous pouvez écouter ce qu'on appelle les secrets du naturaliste, c'est-à-dire que c'est un naturaliste qui vous raconte un petit truc qu'il a vécu ou un conseil qu'il donne sur l'observation de telle ou telle espèce. Et ce qui est génial, c'est que bah, voilà, c'est des amoureux de la nature et puis ça, vous en parlez de manière passionnée et puis en vous racontant des choses que vous ne connaissez pas sur une espèce, quoi. Donc tout ça, c'est des choses qu'un livre papier ne peut pas offrir, évidemment, l'audio, GPS, etc. Et on a essayé de construire ça comme deux outils complémentaires. Utiliser l'un ou l'autre ou les deux.
D'accord. Alors moi j'ai deux questions. La première, vous avez fait exprès de vous installer chez Alexandre?
Dumas, c'est un
Ah
pur hasard.
mais vous le connaissez?
C'est un ami.
Alors attendez, vous allez me répondre à la question, mais attendez, moi je comprends pas parce que j'ai d'un côté, vous prenez des risques avec votre ville, hein. Moi j'ai une adresse à Paris, j'ai une adresse à Marseille. Paris ou
Oui,
Marseille?
oui. Non, les deux. Non, les deux.
Ouh.
Le siège officiel est à Marseille. Mais on a des bureaux à Paris,
D'accord.
donc rue Alexandre Dumas.
Alors vous avez fait exprès, au hasard, vous vous êtes dit, il faut
Non, c'est un
absolument que
hasard.
j'aille m'installer rue Alexandre Dumas.
Ben non, c'est un coup de chance, quoi. Moi, en fait, on était obligé de déménager à un moment donné où on était dans une rue assez proche de, enfin, une rue qui est perpendiculaire à la rue Alexandre Dumas. Et ben, je me balade dans le quartier à un moment donné un midi pour faire une pause déj. Et je tombe sur un local à louer, rue Alexandre Dumas, super sympa, très joli, vraiment très très agréable, original. Et voilà, et on a déménagé là, rue Alexandre Dumas, c'est rigolo, hein, pour un éditeur, c'est marrant.
Ouais. Et moi, nous, on a un point commun quand même, hein, parce que moi, je me trouve cours Émile Zola à Villeurbanne.
Ah oui, bah d'accord.
Vous connaissez
En effet, ça, c'est rigolo quand même.
Oui, c'est un petit jeune et tout. Bon, donc vous avez bien expliqué. Ce qui est bien là, c'est que vous avez expliqué l'application l'application sans GPS, sans Wi-Fi, parce que j'allais dire, quand on descend tout en bas, hein, pas dans la cave, mais quand on descend dans les souterrains, je ne sais pas si on appelle ça des souterrains, quand on descend, on n'a plus rien. Alors déjà, il faut aussi un peu de lumière pour voir. Mais on a.
Alors,
Oui, allez-y.
non, non, pardon, je comprends.
Non, c'est France souterraine. Bah, France souterraine, ça veut dire
Eh
quoi?
oui.
Vous allez dans les caves, vous allez dans les
Ouais.
greniers, vous allez.
Alors là, pour le coup, il n'y a vraiment pas de raison. Donc là, c'est vrai que là, France souterraine, c'est un projet qu'on a hésité à faire au début. Parce que c'est Arnaud Goumont, un auteur qui est également très prolifique chez nous, nous propose ça. Un livre sur la France souterraine, un beau livre, donc avec beaucoup de photos sur la France souterraine. Alors au début, je me dis non, mais attends, France souterraine, je veux bien, mais on va l'illustrer comment? Il fait noir là-dessous.
Ah mais
Et
pas mal comme réflexion. Ah ça c'est vrai, heureusement que vous l'avez dit, j'y avais pas pensé. Oui c'est vrai.
c'est-à-dire que bah, forcément, on se pose ces questions-là en faisant des beaux livres, quoi. Mais en fait, en se documentant un petit peu sur tout ce qui peut exister. Comme photographie sur les souterrains, on a découvert un monde, un univers assez méconnu. Déjà, c'est l'univers de la photographie souterraine. En fait, ce qui est extraordinaire, d'abord, c'est la variété des souterrains qu'on a pu rencontrer, que ce soit des souterrains techniques dans les villes, qui sont parfois presque une doublure de la ville, hein. Les égouts, les catacombes, etc. Ou que ce soit des souterrains naturels comme les grottes, les cavernes, les gouffres, etc. Ou les habitats troglodytiques, les mines, les carrières, les abris souterrains, et même les caves de Roquefort, etc.
D'accord.
Là, on s'est aperçu.
Quand on
Oui,
dit France
pardon.
souterraine, c'est pas uniquement les souterrains, c'est tout le global, tout ce qui est sous la terre. J'ai bien compris.
Tout ce qui est sous nos pieds. Et
D'accord, j'ai
vraiment,
compris.
c'est tout ce qui est sous nos pieds dont on soupçonne souvent pas l'existence. Et c'est les derniers lieux pas cartographiés, en fait. Google Maps a tout cartographié aujourd'hui, mais pas les souterrains. Et
Il aura un peu de mal, hein?
ben non, voilà. Et l'énorme découverte, c'est justement, c'est la photographie souterraine, c'est de voir à quel point les photographes aujourd'hui font des mises en lumière de lieux souterrains avec des photos qui sont purement et simplement magnifiques, souvent avec des variations de couleurs. Je prends l'exemple d'une grotte, on voit ça en couverture du livre, France souterraine. On voit par exemple des espèces de. Je sais pas, comme un peu ces rizières en terrasse qu'on voit
Oui.
en Orient, vous voyez, enfin en Asie du Sud-Est.
Oui.
Et ben la même chose, mais avec en fait de l'eau sur chaque terrasse et des lumières différentes, si vous voulez, qui ont été posées sous l'eau de chacune de ces terrasses, ce qui donne de kaléidoscope en terrasse souterrain. C'est juste pour essayer de donner l'image. En radio, c'est pas toujours facile, mais on a découvert voilà, des mises en lumière incroyables qui magnifient certains lieux par le biais de photographies qu'on retrouve dans ce livre. Donc, c'est ce qui a fait le déclic. On s'est dit, bah oui, mais faut le faire ce livre. Et donc, on a fait ce livre France souterraine, insolite, extraordinaire.
Il va falloir aller regarder les images parce que entre nous, vous avez dit on est dans le noir et vous parlez de mise en lumière souterraine. Mise en lumière dans le noir, en dehors de mettre un flash ou de la lumière, j'ai du mal à saisir comment est-ce qu'on
Eh ben
peut
oui, voilà,
faire.
c'est ça. Là, vous avez vraiment parfois c'est multicolore parce que les photographes s'amusent avec des filtres qu'ils vont placer à certains
D'accord.
endroits, ce qui va créer un enchevêtrement d'ombre et de lumière sur les parois. Par exemple, tout simplement, pas très loin de là où vous êtes, à Villeurbanne, il y a l'usine des eaux de Saint-Clair. Par exemple, qui est en fait un réservoir d'eau, alors que je crois qu'il n'est plus utilisé aujourd'hui, me semble-t-il, mais un réservoir d'eau
Tout à fait.
souterrain, ouais, à caluire et cuivre,
Exactement.
qui se visite. Et justement, moi, je l'avais vu en photo avant de le visiter. Et nous, on a une super photo dans le livre où on voit en fait les piliers de cette espèce de cathédrale. Hein, c'est comme si c'était une cathédrale.
Exactement, tout à fait.
Voilà, et il y a de l'eau au pied, donc l'eau du réservoir, qui est bleutée parce qu'ils ont mis des lumières bleutées. Donc c'est fabuleux, on a l'impression que c'est les Caraïbes souterraines. Et quand je l'ai visité, alors il y a toute une visite guidée qui est super intéressante. Puis à la fin, le clou, on vous montre le réservoir. Et là, paf, ils avaient une panne de lumière. Donc ils ont éclairé la lampe de poche. Et du coup, on voyait plus grand-chose finalement. Et
D'accord.
en fait, c'est là qu'on voit à quel point la mise en lumière est importante. Parce que pour le coup, la réalité était moins bien que la photo. Et donc non, c'est pour donner si vous voulez, l'importance de la mise en lumière. Et les photographes le font incroyablement. Vous avez vraiment des choses. Alors parfois, c'est de la vraie lumière. Par exemple, on a à Paris le canal Saint-Martin qui passe. À un moment donné, enfin, qui a été couvert au niveau du boulevard Richard Lenoir, dans
Oui.
le 11e arrondissement.
Oui, donc je vois à peu près où est-ce que c'est, oui.
Et vous avez des puits de lumière, en fait, qui donnent sur un terre-plein central en surface.
D'accord.
Et en fait, ces puits de lumière donnent sur le canal Saint-Martin qui passe en souterrain à cet endroit-là. Et là, pour le coup, vous avez quand vous êtes dans le canal souterrain, d'ailleurs, qui se visite
En
en
bateau.
vedette, en petit
Oui, en
bateau.
bateau.
Ouais. Et là, vous avez une succession de puits de lumière qui viennent éclairer naturellement la
D'accord.
galerie souterraine aquatique. Et là, ça fait des lumières naturelles extraordinaires. Donc, en fait, ce n'est pas toujours une lumière artificielle, mais bien souvent. Donc, voilà, non, c'est juste pour essayer de donner un aperçu, quoi.
Ouais, complètement. Quand on est dans les souterrains, quand on est en dessous, est-ce qu'on a la même on est dans la même ambiance que quand on est en extérieur, ou c'est quelque chose de beaucoup plus intimiste?
Ben, souvent, par exemple, dans le livre, il n'y a pas les proportions. Enfin, si vous voulez, les photos en grand, parfois sont un petit peu trompeuses. Il y a certains sites que, quand je les ai visités en vrai, parce que ça m'a vraiment, en faisant, sur travaillant sur ce livre, j'ai ensuite beaucoup expérimenté parce que c'était forcément, on découvre un monde qu'on a envie de voir en vrai. Et souvent, les sites sont plus petits que ce qu'on imaginait. Donc, c'est vrai que c'est souvent exigu. Le souterrain, généralement, c'est pas un hasard si dans la mythologie et dans les romans, dans les livres par exemple de Tolkien ou choses comme ça, ce sont des nains ou des gnomes qui habitent les souterrains. C'est pas complètement un hasard. C'est vrai que quand on se promène dans les carrières ou les catacombes de Paris, on s'aperçoit que faut se baisser la moitié du temps, quoi. On est voûté, on fait des kilomètres en étant voûté, et c'est souvent le cas, sauf certains endroits où on pourrait appeler ça vraiment des cathédrales souterraines qui sont particulièrement haut de plafond. Par exemple, une église souterraine,
Oui.
ça existe, hein, les vraies églises
Tout
souterraines.
à fait.
Mais sinon, ou dans le métro, parfois, à certains endroits, vous avez le ciel, le plafond en langage souterrain, c'est le ciel.
D'accord.
Vous avez un ciel qui est très haut, mais sinon, la plupart du temps, voilà, c'est plus petit et plus bas que ce qu'on pourrait imaginer. Et puis, parfois, l'humidité est là, quoi. Il fait toujours frais dans les souterrains, la plupart du temps. À partir de, je sais pas, une quinzaine de mètres de profondeur, il fait toujours une température à peu près constante, en fait. Alors, c'est l'avantage. Si vous êtes en plein été, qu'il fait super chaud à l'extérieur, la canicule, vous savez que 15-20 mètres sous terre, il fera toujours 16 degrés à peu près. Et donc c'est bien, quoi. Si vous voulez vous rafraîchir, c'est parfait. Ou si même il fait moins 25 dehors, bon, c'est rare aujourd'hui, mais vous savez aussi qu'il fera toujours 16 degrés en sous-sol à peu près. Donc c'est marrant, cette température totalement constante. Et puis, enfin, sans se rapprocher trop du centre de la Terre, bien évidemment. Et puis, cette humidité, par exemple, c'est vrai qu'on imagine. C'est toujours, je reviens aux catacombes à Paris, mais c'est vrai qu'on imagine ça peuplé de rats, d'araignées, d'insectes, etc. Pas trop, en fait, parce que c'est un peu invivable, il y a trop d'humidité. Donc, en fait, j'ai une fois croisé un rat, mais par hasard, qui devait être perdu. Mais sinon, jamais, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas de. C'est juste parce qu'il y avait de la nourriture qui avait dû être laissée par des
D'accord.
cataphiles, on appelle ça les cataphiles, ceux qui explorent les catacombes. Mais sinon, voilà, c'est des lieux un peu humides, souvent. Parfois très humide, vous pouvez même marcher dans l'eau, et donc pas très hospitalier quand même.
D'accord. La première fois que j'ai vu le livre et le titre France Souterraine, je me suis demandé si c'était en liaison avec l'aspect Léo. Parce que bon, je suppose que ce sont deux choses différentes. C'est pas la même idée.
Alors non, mais c'est-à-dire, il existe des livres spécifiques sur sur les grottes. Ouais. Il y en a même un qui s'appelle France souterraine tout court, je crois. Et donc, ils sont passionnants aussi. Et donc, nous, on a un chapitre qui s'appelle Nature profonde, qui explore purement et simplement les grottes, les cavernes, etc. Et là, je comprends qu'on puisse faire des livres uniquement sur ça. Nous, on voulait être plus large, mais c'est un univers extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez une variété de couleurs, parce que des fois, vous éclairez simplement sans filtre ni rien, et vous avez des couleurs quand même particulières. Mais c'est aussi un univers de forme totalement insolite, quoi. Là, pour le coup, on est en plein dans votre radio. C'est-à-dire que vous avez dans l'enchevêtrement des formes, des stalactites, des stalagmites, ce qu'on appelle des fistuleuses, par exemple, c'est-à-dire des stalactites très, très fines qu'on trouve, par exemple, dans le Vercors, dans la grotte de Choranche. Vous avez parfois des gouffres. Alors, on ne présente plus le gouffre de Padirac, qui est le gouffre le plus visité en France, où vous avez carrément une rivière souterraine, vous pouvez vous balader, il faut réserver, hein, tellement il y a du monde qui le visite. C'est incroyable, ce gouffre. Et vous avez des endroits alors moins connus, mais alors particulièrement uniques au monde, qui est par exemple le gouffre de la Pierre Saint-Martin. Exactement. Alors, le gouffre de la Pierre Saint-Martin,
tout à fait.
C'est dans les... Vous connaissez ?
Je n'ai pas visité, mais j'en ai entendu parler. Il paraît que c'est magique.
Alors, voilà, pareil, je suis comme vous. J'en ai évidemment beaucoup entendu parler, puisqu'on l'a évoqué dans le livre abondamment. Mais je n'ai pas encore eu la chance de le visiter. Alors, c'est un gouffre dans les Pyrénées, entre Béarn et Pays Basque, je crois, qui est, si vous voulez, un réseau plutôt de gouffres. Mais il y a notamment une salle. Quand on dit salle, c'est un euphémisme, c'est immense. En fait, c'est une salle qui est tellement profonde qu'on pourrait y caser, à quelques mètres près, la tour Montparnasse.
Ouais.
Oui. Donc, c'est-à-dire, elle fait dans les 290 mètres de haut, quelque chose comme ça. Et c'est tellement extraordinaire qu'il y a un groupe d'étudiants de Polytechnique, dans les années 2000, qui a monté une expédition hors norme à la Jules Verne, en faisant, je veux dire, asseyez-vous bien, hein, en faisant voler une montgolfière dans cette salle.
Oui, pourquoi pas, c'est pas interdit.
C'est pas interdit. Voilà, ils ont fait voler une montgolfière sous la terre. Donc, ça s'appelait On a volé sous la terre.
Et d'accord, ok.
Y a de rares photos qui existent et on a pu mettre la main dessus. De cette expédition incroyable, parce qu'il a fallu monter tout le matériel. En plus, c'est assez compliqué d'accès. Hein. Et donc, ils ont réussi cette incroyable poésie d'arriver à faire voler une montgolfière dans une salle souterraine absolument gigantesque. Et donc, cette salle qui aujourd'hui se visite plus facilement parce qu'il y a une grande cascade souterraine que l'EDF a utilisée pour faire une petite captation hydroélectrique. Et ça permet aujourd'hui d'éclairer la salle parce qu'en fait, le problème, c'est tellement grand que si vous n'avez pas des projecteurs surpuissants, bah, vous ne vous rendez pas compte de l'immensité de la salle. Et il y a un tunnel qui a été construit artificiellement, en fait, pour accéder à la salle plus facilement. Alors, il y a une association qui s'occupe de ça. C'est la salle de la Verna. Hein. Ça s'appelle comme ça. Et il y a une association qui permet aujourd'hui de visiter cette salle sans que ce soit trop compliqué. C'est pour ça que moi, je compte bien y aller un de ces jours.
Dites, là, je vais vous faire un peu la tête quand même, parce que c'est vrai qu'on est en radio, mais là, vous me donnez envie de regarder les livres. Comment je peux faire?
Ah oui, c'est le but. Ah
ben, bravo, bien joué. Comment je peux faire pour aller les regarder, pour aller les découvrir, pour aller les commander, pour aller les offrir, me les offrir en cadeau ou je ne sais quoi?
Eh ben, c'est pas compliqué. Hein. Vous ouvrez la porte d'une librairie.
Ah bravo.
Et puis,
oui, non, mais là, c'est pas souterrain. Hein. Il n'y a pas de librairie souterraine, hein, à ce que je sache.
Si, sans doute, mais ce que je veux dire, c'est que vous ouvrez la porte d'une librairie et puis soyez long. Alors, donc en général, c'est Belle Balade Édition, il faut demander, et France Souterraine, Insolite Extraordinaire, ou alors d'autres livres, Village d'Insolite Extraordinaire, par exemple. Oui. Si jamais ils ne l'ont pas, ils le commandent et en quelques jours, ils le reçoivent. Quoi. Après, vous pouvez aussi les feuilleter. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a mis sur notre site internet une option de feuilletage. Vous pouvez voir le premier chapitre comme ça en feuilletant, parce que c'est vrai qu'Internet, une couverture, ça ne suffit pas. Et ben, aujourd'hui, sur notre site internet Belle Balade Édition, on peut voir, feuilleter les livres Et c'est sympa, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lecteurs qui nous... enfin, de gens qui nous demandaient ça, quoi. Et on l'a mis en place. Donc déjà, le feuilleter, puis après, voilà, juste en librairie, ou alors, bien sûr, le commander sur Internet, c'est toujours possible.
Et puis vous pouvez le retrouver évidemment avec tous les liens sur le site internet de Direct en Jeu. Enfin, bah écoutez, il y a de quoi se régaler. Alors, il faut. Est-ce que je peux livrer une information confidentielle?
Ça dépend.
Il faut savoir que là, on a parlé de deux livres en particulier, on a parlé aussi du livre sur les arbres, mais il y en a plein d'autres. Et donc, il y a tellement de choses qu'on s'est dit, tiens, on va être obligé de se retrouver pour un deuxième rendez-vous. Et là, il y aura un deuxième rendez-vous. On peut mettre l'eau à la bouche, on va parler de quoi pour le deuxième rendez-vous?
Alors, prochain rendez-vous, je crois qu'on va parler d'arnaque, si je me
Oh,
trompe pas.
tout de suite.
Ouais, je sais pas si je veux en dire beaucoup plus, mais
Non, faut pas en dire plus, on va parler d'arnaque.
c'est ça, on va parler d'arnaque. Et puis, qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Je crois qu'on va parler de la mer aussi. Il me semble qu'on va parler d'insolite,
Oui,
mais l'insolite maritime,
la soirée de maritime,
notamment.
je me suis dit,
Ouais,
peut-être qu'on va
ouais.
parler des poissons, je sais pas quoi, qui sont dans la mer, j'ai trouvé ça original quand même. Mais bon, pourquoi pas, c'est pas interdit,
Des
hein, je veux
poissons
dire.
bien bizarres, bien
Oui,
bizarres.
mais il n'y a pas que les poissons qui sont bizarres, je vous rassure. Hein. Je me cite en exemple. Et puis, je crois qu'il y aura d'autres choses aussi. Je suis en train de regarder. Qu'est-ce que j'avais dit aussi? Et puis, oui, insolite de la mer, l'atlas de l'arnaque. Et puis, je crois qu'on avait dit aussi des trésors disparus, ou je sais plus. Bon,
Ah
bref.
oui, on va parler de trésors enfouis, disparus, parfois retrouvés même.
Ouais, parce que bon. Parce que je vous rappelle qu'on peut jouer toutes les semaines au loto ou je sais pas quoi, à la loterie, on peut aller au casino, on peut gagner des sous, mais on peut aussi aller chercher un peu partout. Qui sait, il y en a qui cherchent toujours le Dahu, et puis il y en a d'autres qui cherchent des trésors cachés. Quand on voit qu'en Égypte,
Mais
on trouve encore des choses.
voilà, il existe encore des chercheurs de trésors et encore même des trouveurs de trésors. Donc, on vous en dira plus.
Avec plaisir. Merci. Axel Vic, je vous rappelle, directeur éditorial de feu. C'est, j'ai un trou de mémoire.
Belle balade édition.
Belle malédiction. Merci à vous et à très très
Merci
vite
à
en tout
vous.
cas.
À bientôt.